La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Vous avez choisi RMC, il est 8h tout pile.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La Légion d'honneur attribuée ce matin aux deux agents morts la semaine dernière dans l'attaque d'un convoi pénitentiaire. Dans l'heure, un hommage national leur sera rendu tout à l'heure à la mi-journée. Emmanuel Macron en route pour la Nouvelle-Calédonie. En ce moment même, il est attendu en fin de journée sur place. Les Calédoniens attendent beaucoup de cette visite, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes. Vous allez les entendre. Et puis alors qu'il pleut dans la majorité du pays, un chèque de 10 millions d'euros pour les Pyrénées-Orientales, toujours face à la sécheresse. Un chèque pour tenter de sauver la moindre goutte d'eau.
Et puis, mon invité politique à 8h30, ce sera Éric Ciotti, le président des Républicains. Il reviendra bien sûr sur la Nouvelle-Calédonie. Il avait voté le fameux texte qui a mis le feu aux poudres et il estime qu'il faut le maintenir. Vous l'entendrez à 8h30. La Légion d'honneur ce matin pour les deux agents tués la semaine dernière dans l'attaque d'un convoi pénitentiaire.
Et c'est donc tout à l'heure, à midi, à la mi-journée, qu'un hommage national leur sera rendu à l'ancienne maison d'arrêt de Caen. Martin Cadoré, vous êtes déjà sur place en direct ce matin pour RMC. La leur est au dernier préparatif.
Oui, les rubans de sécurité sont déjà en place dans la rue qui mène à cette ancienne maison d'arrêt, rue qui est en train d'être nettoyée au peigne fin, car c'est ici, dans 1h30, que vont passer les cercueils de Fabrice Moello et Arnaud Garcia, sous les yeux de leurs collègues invités à leur faire une aide d'honneur. À l'intérieur de la prison seront accueillis les très proches des victimes, les familles et quelques collègues du pôle de rattachement des extractions judiciaires. Les trois agents blessés la semaine dernière, désormais tous hors de danger, devraient aussi être présents selon nos informations. Le Premier ministre et le ministre de la Justice sont eux attendus vers 11h. Un temps d'échange avec les familles est prévu à l'abri des caméras. Puis à midi va démarrer la cérémonie à proprement parler, avec les honneurs au drapeau, le passage en revue des troupes et enfin l'entrée des cercueils. Le Premier ministre prononcera ensuite un discours. Cette cérémonie sera suivie à distance dans de nombreuses prisons françaises et notamment à la prison de Caen où travaillaient les victimes. Là-bas, un écran géant est installé dans la cour. Le parloir, les promenades et les extractions sont suspendus pendant ce temps d'hommage.
C'est Emmanuel Macron qui devait normalement présider cette cérémonie. Finalement, ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce que vous le savez, Emmanuel Macron est en route en ce moment pour la Nouvelle-Calédonie. Le président là est dans l'avion, il y arrivera en fin de journée après 25 heures de voyage. Lui qui a donc décidé de reprendre le dossier calédonien en main en installant dans l'archipel ce qu'il appelle une mission. Une mission pour renouer le dialogue en pleine réforme constitutionnelle entre indépendantistes et loyalistes. Nicolas Legrand, vous êtes le correspondant de RMC à Nouméa. Alors dites-nous ce matin ce que les Calédoniens espèrent de cette visite.
Ce qu'attendent surtout les Calédoniens, à l'image de John, c'est le retour au calme.
On n'entend pas de lui qui nous sauve du jour au lendemain. Tout le monde est sur les dents, donc il faut vraiment que ça bouge, quoi. Qu'il fasse le nécessaire pour qu'il y ait un rétablissement de l'ordre, parce que sans ça, on peut rien faire d'autre. Et même les discussions, ça n'avancera pas du tout.
Depuis fin 2021, les discussions sont au point mort, malgré plusieurs tentatives. Emmanuel Macron vient donc relancer la machine en instaurant une mission du dialogue. Une visite superflue à l'heure actuelle pour Sophie.
Ça sert vraiment à rien. Ça va encore mettre plus de tension que ça. Je ne sais pas s'il va pouvoir réunir tout le monde autour d'une même table. Donc, je vois pas trop l'intérêt de sa venue.
Marie, elle, a tenu les barrages indépendantistes dans un quartier sensible de Nouméa. Et elle rêve de voir le président changer d'avis.
C'est une identité en fait qu'on est en train de défendre. Espérons qu'il va nous comprendre aussi.
Je vous ai compris, en référence au général de Gaulle en Algérie, c'est ce que ne veulent surtout pas entendre les non-indépendantistes. Pour Michel, les Calédoniens ont voté trois fois non à l'indépendance et il faut le respecter en maintenant la réforme dégelant le corps électoral.
Pas lâché, quoi. Qu'il arrive à calmer les esprits des autres en disant « mais non, c'est comme ça, on va jusqu'au bout, quoi ».
C'est donc dans une société calédonienne toujours plus morcelée que le président arrive pour renouer les fils du dialogue.
Il est 8h04 sur RMC. Plusieurs communes se réveillent les pieds dans l'eau, les pieds dans la boue ce matin en Picardie, dans les environs d'Albert, notamment conséquence des orages et de la pluie qui ont emporté avec des coulées boulons. Donc hier, voitures, portes et fenêtres de maison. Et alors qu'il pleut dans la plupart du pays, c'est toujours la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales où le ministre de l'Agriculture, Christophe Béchu, va passer la journée avec un chèque de 10 millions d'euros pour financer 7 projets destinés à préserver la moindre goutte d'eau, Clara Gabillet.
Nicolas Garcia fait partie des élus qui rencontreront le ministre aujourd'hui, le vice-président du département, satisfait de ses premières annonces.
Tout ce qui va aller dans le sens de dépenser moins d'eau, de pouvoir en récupérer, de soulager nos nappes, ça va dans le bon sens.
Lui aussi sera présent pour exprimer sa colère au ministre, car même si des systèmes d'irrigation sont prévus, il faudra plus selon Jean-Henrique, viticulteur qui a perdu 7 hectares de vignes en un an.
Le problème, c'est que c'est des annonces en fait à long terme. Nous, en fait, on veut vraiment de l'urgence. La création surtout de retenue, parce que par exemple, ces derniers jours, il a plu, mais malheureusement, bon, la terre a bu et le reste est parti à la mer.
Pour tout cela, station d'épuration, réparation de fuite, le gouvernement prévoit 10 millions d'euros au total, pas à la hauteur de l'enjeu, selon l'hydrogéologue Marjorie Bertrand.
10 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Réparer des fuites sur des réseaux d'eau, ça coûte excessivement cher, il faut refaire de la voirie. Au mieux, on va réparer 10 kilomètres.
En 2023, sur 13 fuites graves identifiées dans les Pyrénées-Orientales, seulement 4 ont été résorbées.
Les partenaires sociaux sont convoqués au ministère de Travail aujourd'hui. Partenaires sociaux qui vont savoir à quoi ressemblera le nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage voulu par le gouvernement pour début juillet. Donc là, très rapidement, 5e réforme depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Marie-Lise Léon de la CFDT attend beaucoup de ce rendez-vous.
Aujourd'hui, la ministre veut nous recevoir. J'espère qu'elle va jouer carte sur table et nous dire à quoi sert la réforme et quel est le contenu de cette réforme et qu'on pourra argumenter. C'est quand même bien l'objectif aussi de cette rencontre, de pouvoir nous leur dire attention, partez des situations concrètes et pas de tableur Excel en disant on va jouer sur des curseurs pour faire des économies.
Il va y avoir du changement sur au bord des routes. Les stations-service BP avec le logo vert sont en passe de complètement disparaître. Pourquoi ? Parce que le contrat avec le pétrolier britannique n'a pas été renouvelé, Romain Hoog, et ça va sans doute avoir des conséquences positives. C'est ça qui nous intéresse sur les prix à la pompe dans ces stations.
Oui, ce sont 254 points de vente sur le territoire qui passent sous le pavillon rouge et bleu d'Esso, une filiale d'ExxonMobil. Le groupe pétrolier a remporté l'appel d'offres pour reprendre ces stations exploitées jusqu'ici par son concurrent BP. Le changement d'étendard a déjà commencé depuis le début de l'année dans 150 stations-service et c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle. Les prix devraient être plus abordables qu'avant. C'est la nouvelle stratégie du groupe Esso qui souhaite venir concurrencer les tarifs affichés par exemple en grande distribution. Esso qui précise qu'aucun emploi ne sera supprimé au cours de ce transfert, possédera en France 800 stations à la fin de l'opération, ce qui en fera l'un des principaux débitants de carburant dans le paysage français.
Un mot de la situation au Proche-Orient. Ce matin, plusieurs pays européens sont sur le point de reconnaître ce mercredi l'existence d'un État palestinien. L'Irlande, l'Espagne et on l'a appris là il y a quelques minutes, la Norvège, une cinquantaine de pays membres de l'ONU refusent toujours de reconnaître la Palestine. L'opération séduction pour Emmanuel Macron, avant de partir en Nouvelle-Calédonie, le président déjeunait hier avec le président du Real Madrid, le club de foot, pour le convaincre de laisser son futur joueur, certainement, hein, Kylian Mbappé, et bien de participer au JO cet été, Nicolas Pelletier.
Oui, depuis des mois, Emmanuel Macron est très investi dans ce dossier. Le chef de l'État veut absolument voir la star de l'équipe de France avec la tunique olympique cet été à Paris. Le président de la République a donc profité du passage à l'Élysée de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour faire passer un message. Kylian Mbappé doit être libéré pour les JO en France. Assis à la table de Thierry Henry lors du déjeuner, Emmanuel Macron a avancé comme argument que cette présence permettrait au Real de retrouver un homme accompli et heureux pour poursuivre avec le club espagnol en réalisant un de ses rêves, faire les Jeux dans son pays. Convaincre Florentino Pérez s'annonce difficile, même pour un chef d'État.
Et puis je sais que l'information vous passionne, Apolline, ce matin. Cet alpiniste népalais qui a gravi cette nuit l'Everest pour la 30e fois.
Alors,
record du monde donc. Alors, il s'appelle Camille Ritas, monsieur. C'est un Sherpa, comme l'était son papa, un des premiers Sherpas professionnels. Il a 54 ans. Il tourne à une montée de l'Everest en moyenne par an. Parfois, c'est plus. L'année dernière, par exemple, il avait gravi deux fois l'Everest en seulement
10 jours. Et est-ce que vous savez s'il s'arrête là ou s'il continue ?
Ah bah, je pense qu'il va continuer, là, sur sa lancée. Ouais. Disons, il en a pas marre, c'est son métier.
Extraordinaire. Et on le félicite, bien sûr. Merci. Je sais pas si. Enfin, celui fera une belle jambe, je vais vous dire. Ouais. Voilà.
S'il nous écoute.
Avec l'appli RMC en haut de l'Everest,
voilà. Ça capte. C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
comment limiter l'hémorragie dans le secteur de la restauration. Il y a 72 000 restaurants qui ont mis la clé, 7200 pardon évidemment, restaurants qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. C'est bien plus qu'en 2022, vous avez entendu depuis ce matin des restaurateurs. Le parti pris d'un des représentants du secteur dans un instant, pour lui c'est simple, il y a trop de restos et donc il faut un numerus clausus comme pour les médecins. Il pointe aussi du doigt la responsabilité des fast-foods qui concurrencent les restaurants traditionnels. Explication à suivre et vos témoignages, bien sûr, n'hésitez pas au 3216.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et c'est l'heure de passer à table.
Le parti pris.
Oui, parce qu'on va parler des restaurants, de tous ces restaurants qui ferment. Ça explose, le nombre de restaurants qui ferment. 7200 restaurants qui ont fermé cette année. C'est 40% de plus que l'an dernier. Bonjour Franck Chaumès. Vous êtes le président de la branche restaurant de l'UMIH. C'est l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Et votre parti pris, c'est carrément de dire qu'au fond, il y a trop de restos. Il y a trop de restos en France et qu'il faudrait les limiter. Vraiment ?
Alors, on n'est pas contre la liberté de créer. Et bien évidemment que c'est pour certains secteurs. Nous avons des grandes villes qui aujourd'hui ont une surpopulation de restaurants. Alors peut-être, j'ai évidemment utilisé le mot numerus clausus parce que ça parle à tout le monde. Ce n'est pas le numerus clausus général sur toute la France, c'est surtout sur les changements d'affectation de locaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, à juste titre, qui va s'orienter plutôt pour acheter un magasin de vêtements, un magasin de souvenirs et le transformer en restaurant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un local comme ça se transforme en restaurant, ça ne redeviendra jamais un magasin de souvenirs ou de vêtements. Donc aujourd'hui, nous faisons face à l'ubérisation, ne l'oublions pas. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a plus de 40% de dépôt de bilan de 2023 à 2022, c'en est la cause. Donc je pense qu'il faut se mettre autour de la table, tous, être raisonnable et penser déjà à ceux qui ont créé depuis longtemps et ne pas penser à la création des autres.
Avec effectivement aussi une alerte que vous dites, c'est que parmi ces nombreux restaurants qui ferment, une grande partie d'entre eux sont justement des restaurants qui avaient ouvert il y a peu de temps, c'est-à-dire dans ce système de on ouvre pensant qu'il va être facile d'ouvrir un resto et en fait c'est évidemment un métier plus compliqué qu'il n'en a l'air comme ça. Je voudrais juste qu'on prenne l'exemple de Bordeaux parce qu'au fond à Bordeaux c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas d'ouverture sans fermeture d'un autre restaurant, c'est ça?
Ben, c'est parce qu'on a bataillé pendant de nombreuses années avec mes présidents, mes prédécesseurs, afin de lutter, parce que nous sommes la ville en France, et c'est pas une gloire que d'être premier au classement français. Nous avons un restaurant pour 274 habitants, et ça c'est les chiffres d'il y a 2-3 ans. Je n'ose même pas demander actualisation de ces chiffres, parce que j'ai bien peur que ça soit encore encore plus creusant. Non, je crois qu'aujourd'hui, la mairie de Bordeaux, avec le préfet de Gironde, ont pris leurs responsabilités, ont délimité une zone géographique qui est plus ou moins préservée pour qu'il n'y ait plus d'implantation de licence et qu'il n'y ait plus de changement d'affectation.
Avouez que c'est assez paradoxal. Avouez que honnêtement, quand on vous entend, on se dit vous êtes quand même patron de la branche restauration de l'Union des métiers de la restauration et de l'industrie de l'hôtellerie. On se dit honnêtement, vous devriez faire partie de ceux qui disent allez-y, venez bosser dans notre secteur, ouvrez des restos. Et vous dites attention, attention, attention. Au contraire, il faut restreindre. Et c'est contre-intuitif. On est d'accord?
Non, pas du tout, Apolline. Juste le constat. 7200 établissements qui ont fermé en 2023, 200 000 emplois à pourvoir. Je crois qu'aujourd'hui, pour monter un salon de coiffure, il faut un CAP de coiffure. Aujourd'hui, je pense qu'il faut devenir maintenant raisonnable, se mettre autour d'une table et voir les conditions pour être restaurateur. C'est un vrai métier, ce n'est pas juste porter des assiettes ou se mettre comme on le voit avec les émissions télé. Ça ne s'improvise pas, ce métier, heureusement. Et déjà que dans ce métier, on a plusieurs métiers. Il faut être RH, il faut être commerçant, il faut être acheteur. On nous demande tout un tas de qualités sans avoir de formation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut durcir l'accès à l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que ces gens viennent chez nous, bien au contraire, mais qu'ils soient encadrés déjà dans des établissements existants, faire leurs preuves et ne pas ouvrir. Vous savez, quand on dépose le bilan, Apolline, Il y a une perte directe et indirecte. Directe, c'est on perd peut-être ses biens que l'on a mis en caution, mais on doit de l'argent à. Et on met d'autres personnes en difficulté, ceux à qui on n'a pas honoré.
Et c'est évidemment tout un secteur. Une question aussi quand même sur le rôle des fast-foods et sur la limitation éventuelle du fast-food. C'est-à-dire, alors évidemment, il faut se mettre d'accord sur les définitions de fast-food, pas fast-food, etc. On sait que par exemple les dark kitchens, ça fait partie des choses qui ont été très largement limitées dans la ville de Paris, par exemple. Est-ce que les fast-foods doivent être aussi limités? Est-ce que au-delà d'un numerus clausus, pour reprendre votre expression sur les restaurants, est-ce qu'il faut plutôt une réglementation sur le nombre de fast-food par secteur?
Oui, je pense qu'il faut, qu'il y ait une règle pour ouvrir un restaurant, mais qu'il y ait une règle aussi pour ouvrir un fast-food. Les règles d'hygiène et de sécurité sont les mêmes. Donc aujourd'hui, la restauration française, elle va de la restauration rapide à la restauration étoilée. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus, dur avec ça, sur l'accessibilité à devenir chef d'entreprise dans notre secteur. C'est tout ce qu'on dit, on n'est pas en train de dire qu'on veut plus qu'il y ait d'accès dans cette profession. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a 66 millions de guides culinaires. Oui. Donc c'est pas parce qu'on regarde des émissions de télé qu'on devient restaurateur.
Je vous avoue que quand on regarde Top Chef, on a assez envie tous de devenir, d'abord d'aller au restaurant, et de devenir restaurateur. C'est la meilleure pub en effet, mais presque trop, on l'entend, pour votre métier. Merci Franck Chaume d'être venu défendre votre parti pris sur RMC ce matin. Je rappelle donc que vous êtes le président de la branche restauration de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries d'hôtellerie. Il est 8h19, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Exactement, c'est tous les jours. Bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux qu'Emmanuel Macron.
Ah.
C'est pas une bonne semaine pour le président. La Nouvelle-Calédonie, ça va pas. Valérie Ayé, ça va pas. Et là, il y a Volodymyr Zelensky. Vous savez ce qu'il vient de lui faire? Il vient de lui refuser sa trêve olympique. Ah, il n'y a rien qui va. Il doit hurler dans un coussin. C'est frustrant, je le comprends. Macron avait demandé à Poutine et Zelensky une trêve olympique. Et oui, vous l'imaginez s'il avait fait ça en débarquant en Ukraine.
Les gars, j'organise les qualifications en lancer de poids entre le Mozambique et l'Uruguay. Si vous pouviez stopper votre guerre 2 minutes.
Oui, mais nous, on se fait attaquer, nous.
Oui, bon, d'accord. Après, il faut voir le bon côté des choses. Ça vous fera plein de nouveaux athlètes pour les Paralympiques. Ça, c'est bien.
À l'heure où nous parlons... Le président vole pour la Nouvelle-Calédonie.
Mesdames, messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Notre vol vers Nouméa durera environ 25 heures, ressenti 50, si vous êtes assis à côté de Franck Riester et qui vous fait la conversation. Ce vol sera sans turbulence, contrairement à l'accueil que vous aurez sur place où là, ça va secouer.
Jusqu'à présent, l'exécutif avait pourtant pris des mesures radicales en raison des émeutes. Par exemple, pas de flamme olympique. La flamme olympique ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie.
C'est
une décision du patron des Jeux, Tony Estanguet. Ce qui est étonnant pour un ancien champion de canoë kayak. Et bizarrement, ça n'a pas suffi pour raisonner les émeutiers. Ah, oh, c'est étonnant. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient dire « Oh non ! S'il vous plaît, on arrête les émeutes, on accepte la réforme, mais laissez-nous la flamme !» Alors Macron, attendri, aurait pris le leader kanak dans ses bras, lui aurait caressé le torse et ébouriffé les cheveux. Enfin, « Allez, si vous levez les barrages, on rediscute !» Coquinou, va.
Arnaud, le prince William a été élu 3e anglais vivant le plus sexy de 2024, selon un sondage. Je n'y crois pas un seul instant.
Ils ont des goûts particuliers.
Ils ont pas interrogé Amélie.
Vous n'êtes pas partie du panel, mais vous n'êtes pas anglaise. Ils ont des goûts chelous. Hein. Ça explique leur cuisine. Et alors, attendez, vous allez vous régaler, Apolline. Le premier du classement, c'est...
J'ai peur.
Jeremy Clarkson, 64 ans. Ressenti 80, c'est l'animateur de Top Gear.
Il
a son charme.
Il est devant David.
Mieux que William, moi je dis.
Non.
Oui. Ah ouais. Ah non, Amélie n'est pas d'accord.
Plaît, non.
Allez, on y va, on continue. On fait comme si j'avais rien dit.
Apolline, il est quand même devant Tom Holland et, ou David Beckham ou
c'est
Hugh Grant.
Tom Holland, c'est le fils.
Non, mais à peau.
C'est pas le fils de François, Tom Holland, c'est le.
Ah, c'est Spider-Man.
C'est Spider-Man.
Voilà. Vous dire Spider-Man.
C'est Spider-Man.
Ouais.
Voilà. Bon, ben voilà, Jeremy Clarkson. Alors, franchement, il a une dégaine,
non,
quoi.
Il a une gueule.
Non, mais on dirait.
Non, mais arrêtons.
On dirait un agriculteur de l'amour est dans le pré. On dirait les gars, tu sais, qui ont 62 ans, qui vivent encore chez leur mère en étant puceaux et qui sont là. Pourquoi l'amour me fuit-il? On sait pas, monsieur Fournier.
Il conduit très vite des bagnoles.
Il conduit très vite des bagnoles.
Vous voulez que je vous dise, il y a des fondamentaux.
On va se mettre d'accord sur le prince
mais
William.
Mais ils sont pas à lui.
On va se mettre d'accord sur le prince William.
C'est vrai. Non, il est plutôt du côté des propriétaires, Manu.
Voilà.
La question de la propriété privée.
Le patrimoine. Hein. Ce qui compte, la bagnole, c'est plus de l'avoir que de la conduire.
Mais je suis pas du tout d'accord, Manu.
Bah oui. Il y a un débat qui se lance. Alors, on peut vous faire venir aux grandes gueules et puis on lance le truc. Hein.
Donc voilà. À partir de 8h23 tous les jours sur RMC.
Troisième place pour le prince William. En tout cas, là, il y a un vrai débat. Troisième place. Bon, après, troisième. Ça s'explique. Quand ta mère, c'est Lady Di, ça c'est bien, mais que ton père, c'est le prince Charles. Pendant la grossesse, il y a dû y avoir un combat entre les cellules moches et les cellules belles. Et à la fin, ben voilà, ok, tu seras beau comme ta mère, mais jusqu'à 25 ans.
On m'a toujours dit, il faut regarder le père. Pour savoir quand même. Moi, j'avoue, Charles, là, je... Non, c'est pas possible.
Le prince Charles.
Oui,
on parle toujours du prince Charles. Voilà.
Ah, on parle toujours du prince, oui, on parle toujours du prince. Oui, oui.
Alors, le même sondage a été fait en France. Manu Le Chypre arrive à la seconde place derrière Omar Sy. Ah, là, il n'y aura pas de débat.
Voilà.
Prochain, ah, c'est bon pour vous, Manu.
Je garde
voilà.
La séquence. Et il a plein de voitures.
À Bordeaux, Arnaud, 120 recrues.
Il possède les voitures.
C'est lui.
On n'ira jamais au bout de cette
les 22.
Tu veux
il
voir
est 8h29, vous êtes bien sur RMC.
À Bordeaux, Arnaud, 120 recruteurs et demandeurs d'emploi se sont affrontés lors d'une course de chaises de bureau.
C'est quand même plus sympa qu'une interview d'Éric Ciotti, hein, faut admettre. Donc c'était Squid Game, ce truc. Cet événement à la chaise de bureau s'était donné pour mission de réunir étudiants, demandeurs d'emploi et entreprises pour recruter, je cite, différemment.
Ah oui.
J'imagine tellement le truc. Le patron de la FNAC et le patron de Bouygues Télécom qui vont voir des chômeurs. Bien le bonjour les gueux, distrayez-nous. Faites une course de chaises de bureau pour notre bon plaisir et le premier arrivé aura une augmentation de 100 euros en riant comme les méchants dans James Bond.
Et les proprios, très bien, le méchant de James Bond.
Le spectre. Les proprios, ça va être pareil quand ils auront 25 candidatures pour un appartement. Allez faire une course en sac. Le premier arrivé, il gagne l'appart. Sautillez mes bons amis. C'est ça qu'on devrait faire pour le Proche-Orient. Au bout d'un moment, Netanyahou et le Hamas, au lieu de les convoquer à la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'on se fait chier? Deux gros ballons sauteurs avec une poignée, trois fois le tour de l'open space. Le premier arrivé, il gagne la bande de Gaza. On arrête de se prendre la tête. Donc maintenant, c'est ça, France Travail. Ça valait bien la peine de changer de nom. Fallait appeler ça la Française des Jeux. Vous imaginez l'arrivée du jeune recruté au bureau le lundi matin. Les gars, je vous présente Jean-Michel, que je viens de recruter comme spécialiste de l'aéronautique. Mais il a de l'expérience? Je sais pas. Par contre, il va super vite sur une chaise de bureau. Mais il a fait des études d'ingénieur? Je sais pas, mais il va super vite sur une chaise de bureau. Bon bah ok, Jean-Michel, bienvenue dans la boîte, vous avez l'air d'être un très bon élément. Alors, votre première mission aéronautique, ça va être de conduire l'hélicoptère du président iranien. Et le gars, il a dit, comptez sur moi, je suis expert en pilotage de chaise de bureau, mais ça doit pas être tellement différent. Et bah la suite, on la connaît. Bravo les recrutements à la chaise de bureau. Allez,
rien
bonne interview d'Éric
petite...
Ciotti. Éric Ciotti, qui est troisième.
Je voudrais faire Éric Ciotti sur la musique de Top Gun. Et moi je trouvais que c'est autre chose quoi. On fait le 8h30 désormais sur la musique,
sur
de,
la
Top
musique de Top
Gun.
C'est là on est. Éric Ciotti est le troisième homme le plus sexy de France selon un sondage. Vous allez vous régaler. À tout à l'heure.
Et il est donc mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président du parti Les Républicains. De très nombreux sujets sur lesquels j'aimerais vous interroger. Sur la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. Les européennes, la Cour pénale internationale, la synagogue de Rouen, la fin de vie. Mais je voudrais d'abord que vous leviez avec moi une ambiguïté. Pourriez-vous, oui ou non, travailler avec Emmanuel Macron, et je vais même être plus précise, pourriez-vous, oui ou non, être dans un gouvernement sous Emmanuel Macron ?
Il y a des institutions dans notre pays. Quand on est parlementaire, quand on est dans un parti politique, on travaille pour la France. On ne travaille pas pour le président de la République ou pour le Premier ministre. Nous sommes dans l'opposition. J'ai été élu dans l'opposition. Je suis plus que jamais dans l'opposition à un pouvoir qui a abîmé le pays au plan des finances publiques, au plan de la sécurité. On voit bien que tout se délite et se dégrade. Et je suis plus que jamais dans cette opposition. Il faut tout changer aujourd'hui. Il faut changer de politique. Il faut réformer le pays, réformer l'État, baisser les dépenses publiques, baisser les prélèvements obligatoires, assurer la sécurité, arrêter cette vague migratoire. Voilà, tout ça.
Oui, mais je vous repose la question.
Tout ça, on le fait.
Je vous repose la question. Est-ce que ça, vous pourriez le faire ?
Et on ne le fait pas.
Est-ce que vous pourriez le faire sous Emmanuel Macron président, vous-même ou un autre ? Et vous avez bien compris que mon regard se tournait vers Gérard Larcher qui est aujourd'hui le deuxième personnage de l'État, qui est évoqué comme une sorte de recours, de potentiel Premier ministre, une coalition ou une forme peut-être même de cohabitation.
Tout ça, ce sont des spéculations, souvent de spéculations de journalistes. C'est votre rôle de poser
Éric Ciotti, mais quand on pose la question à Gérard Larcher, et ça a été fait par un certain nombre de mes confrères, il ne dit pas non.
En tout cas, c'est pas le sujet.
Est-ce que vous dites non ?
C'est pas le sujet. Nous,
vous dites pas non,
aucune démarche n'a été faite par les personnes que vous citez, ni d'un côté, ni de l'autre. Donc moi, aujourd'hui, nous avons une politique qui est mauvaise pour la France. Je m'y oppose et j'aspire à ce que cette politique change avec nos idées, avec le projet que nous portons.
Pardon, voilà,
C'est cette ligne d'indépendance totale que nous portons. Ce qu'il faut, c'est changer de politique. Si demain nous sommes au pouvoir pour changer de politique, nous mettrons en place notre projet, c'est tout.
La question, c'est où au pouvoir ? Est-ce que vous pourriez être au pouvoir à Matignon ?
Quand on est dans un parti, on aspire à diriger ce pays.
Oui, mais on peut diriger, vous savez bien, en France, à la fois depuis l'Élysée ou depuis Matignon.
La situation, elle est simple. La politique, aujourd'hui, elle est mauvaise. Donc, il faut en changer. Moi, je souhaite qu'on en change le plus vite possible. Le plus vite possible
Vous connaissez les urnes. Par cœur, la politique, je vous pose la question très clairement. Est-ce que oui ou non, si Gérard Larcher, on lui propose d'être Premier ministre, vous lui direz, n'y va pas, ou vous lui direz, pourquoi pas ?
Il faudra poser la question à Gérard Larcher.
Elle lui a déjà été posée et il a répondu sera au chef de l'État d'en décider.
Je ne pense pas qu'elle lui ait été posée par le chef de l'État. Voilà, donc on ne fait pas de spéculation. Moi, je ne fais pas de la politique fiction.
Vous ne vous y opposez pas.
La politique actuelle est mauvaise. L'urgence, c'est d'en changer.
Non, au fond, la question que je me pose, c'est est-ce que Rachida Dati n'avait pas juste raison avant vous, quoi ?
Je ne crois pas. Les débauchages individuels n'ont jamais apporté de solution. Ceux qui ont quitté notre famille politique, que ce soit Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Rachida Dati, quel est leur bilan ? Le bilan, c'est celui d'un pays qui décroche, qui n'assure plus la sécurité de ses concitoyens, qui a favorisé la vague migratoire.
Oui, mais vous souhaitez exercer le pouvoir si au fond vous aviez l'occasion à l'automne
de la dette des impôts de la sécurité de l'immigration.
En ayant la droite au gouvernement ?
Le bilan de ceux qui y sont allés de façon individuelle. Moi, ma démarche est de porter le projet d'un parti pour redresser le pays. Si demain, on nous dit « c'est vous qui avez les clés pour redresser le pays », on redressera le pays. Voilà.
Et si
pense que d'abord, c'est aux Français de le dire.
Si on vous donne les clés de Matignon, à vous la droite, est-ce que vous les prendrez ?
Nous verrons bien si cette question est posée. À ce moment, elle n'a jamais été posée. Mais ce que je dis, c'est aucun débauchage individuel. C'est une démarche pour changer.
Derrière Gérard Larcher, globalement, ou quelqu'un d'autre. Voilà,
si demain je dis et on accepte qu'il y a un référendum constitutionnel pour arrêter l'immigration de masse, pour changer les règles en matière de politique pénale, pour baisser drastiquement les dépenses publiques et pour baisser les impôts, et que c'est nous qui le mettons en œuvre, on jouera notre rôle.
Vous aviez évoqué la question d'une motion de censure face à l'insincérité du gouvernement dans son budget. On a bien compris que finalement vous estimiez que c'était pas le moment, que là on était dans les européennes, mais est-ce que ça veut dire qu'à l'automne, vous n'hésiterez pas ?
Absolument, j'ai été très clair.
Quitte à faire tomber le gouvernement.
Ça rejoint le sujet précédent, ici sur votre antenne. J'ai dit très clairement, nous refuserons dans le débat budgétaire toute augmentation des impôts. Et aujourd'hui, je le redis, il y a un plan caché d'augmentation des impôts. La presse en fait état ce matin. Il y a la question.
Il y a des moments où vous aimez bien lire la presse.
De la désindexation.
Vous dites sur Gérard Larcher, non, mais ça, c'est une histoire de journaliste. Là, par contre, ça vous plaît, les couloirs de la presse.
C'est la presse économique.
Bon.
Voilà.
Qui décrit
l'état des lieux.
Bon.
Mais on a mis trois lignes rouges. Pas d'augmentation d'impôts. pas de désindexation des retraites et pas d'atteinte au modèle de santé pour que les Français puissent continuer à se soigner.
Est-ce que vous avez l'impression que sur liberté. Ces trois points, on est en train de franchir
oui.
la ligne rouge ?
Monsieur Macron a donné des instructions à ses ministres, et notamment au ministre des Comptes publics, Monsieur Cazenave, mais aussi à sa majorité qui travaille en secret. Vous savez, il y a une task force dans le groupe Renaissance qui réfléchit notamment à taxer la rente. C'est quoi la rente ? C'est l'assurance vie des Français ? Ce sont les loyers des propriétaires ? Et il y a également l'idée, elle est à la une de tous les quotidiens aujourd'hui, monsieur, tout à l'heure, Nicolas Dos vient d'en parler, c'est la question de la désindexation des retraites, qui aboutirait à une perte massive de pouvoir d'achat des retraités. C'est ce plan caché qu'on va nous sortir après les européennes. Et donc, nous le disons, nous ne laisserons pas passer
s'il
ça.
S'il y avait, par exemple, des indexations, s'il y avait des indexations dans le futur budget, vous diriez
cas,
dans ces cas-là,
motion de censure. Je voterai personnellement une motion de censure, je le dis très clairement. Donc,
et vous seriez prêt à faire tomber le gouvernement.
Cette question, elle est très claire. Nous, on n'est pas dans des postures, on ne change
et
pas.
Et puisqu'on est sur
du
les
jour
questions
au lendemain,
de...
on a fixé ces lignes au moment du budget. Pour l'instant, nous n'avons pas le texte, mais nous disons au gouvernement qu'il faut qu'il dise la vérité aux Français.
Puisqu'on est sur ces questions de budget, il y a ces accords en cours à la SNCF, notamment hier, il y a eu cette grève pour la SNCF Île-de-France. Il y a eu un peu plus tôt à la SNCF un accord sur l'application de la réforme des retraites, avec une sorte d'exception pour les contrôleurs de la SNCF qui pourront partir plus tôt, c'est-à-dire 18 mois avant l'âge légal, en touchant 75% de leur salaire. Il y a un certain nombre d'accords qui se font partout. Comment vous regardez ça ? Et est-ce que vous estimez qu'il faut aller beaucoup plus loin
Bien
dans
sûr,
le refus de ces accords ?
C'est un scandale absolu, ça choque beaucoup le Français. On a aujourd'hui une entreprise qui, depuis 1947, chaque année, il n'y a pas une année depuis 1947 où la SNCF n'a pas été en grève, et qui bloque des millions de Français au moment des départs en vacances, qui bloque ceux qui travaillent et qui aspirent à un peu de loisirs. Aujourd'hui, on a une entreprise qui prend en otage, une entreprise, quelques syndicats de cette entreprise, je généralise pas, mais qui prend en otage les Français. Et l'accord sur les retraites, il est extraordinairement choquant. On a voté une loi sur les retraites. Elle a été douloureuse. Je l'ai personnellement soutenue. Ça a ouvert des débats. Je savais que c'était impopulaire, mais c'était nécessaire pour le pays. Et la grandeur d'un homme politique, c'est de servir l'intérêt général et pas de regarder l'intérêt politicien. Donc, pour moi, ça allait dans le bon sens pour sauver notre système de retraite. Je pense à l'intérêt notamment de nos retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui aspirent à recevoir une retraite. Beaucoup sont
on
petits.
Fait quoi
et là,
on
aujourd'hui,
quoi,
on exonère les agents de la SNCF qui partent plus tôt en retraite, qui travaillent moins par semaine de cette réforme des retraites.
On fait quoi ?
C'est purement scandaleux. Je le dis, ce n'est pas acceptable. Donc moi, je viens de déposer, je le ferai, une proposition de loi visant à privatiser la SNCF.
Privatiser
oui,
la SNCF ?
Aujourd'hui, ça suffit. Il faut que cette entreprise, elle soit soumise à la concurrence. Il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut qu'on arrête de la prendre en otage et surtout qu'elle prenne en otage le pays. Donc je souhaite, comme ça a été fait pour des grandes infrastructures, vous savez, regardez ce qui a été fait à France Télécom, devenu Orange, La Poste.
Vous ne voulez pas dire France Télé, vous voulez peut-être privatiser France Télé, mais alors ça, ce serait encore un autre...
Pourquoi pas ?
Ah, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Quand privatiser on, l'audiovisuel
public. En tout cas, autant de chaînes, est-ce que c'est nécessaire ? Vous savez, le coût, 3 milliards d'euros, on nous demande 20 milliards d'euros d'économie, on va la
donc c'était pas un lapsus.
On va les prendre. Non, je parlais de ouais. France Télécom transformée
mais,
en Orange.
Mais au fond, vous dites, mais, et pourquoi pas France Télé ?
Mais pourquoi pas ? Il n'y a pas de tabou. Il faut arrêter, si on veut faire des économies, il faut arrêter avec les mesurettes. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui privatiser la SNCF, comme ça a été fait pour les aéroports. Est-ce que les aéroports sont bloqués ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Aujourd'hui, ayons ce courage d'une réforme. Vous savez, on parle
autant,
tous les
jours...
Pour
autant, il y a quand même la grève aussi des contrôleurs aériens qui, dans la même logique d'une sorte de chantage aussi au JO, ont obtenu beaucoup.
Mais ces chantages, ils sont scandaleux. Voilà, ils sont scandaleux qu'on profite des Jeux Olympiques pour mettre en coupe réglée le pays. Ce n'est pas supportable.
Éric Ciotti, Emmanuel Macron est en route pour la Nouvelle-Calédonie. Il était temps ?
Je ne sais pas si ça sera utile. Ce qui est utile, c'est de rétablir l'ordre. Voilà, ce qui s'est passé est purement scandaleux. Ça traduit là aussi un manque d'anticipation, et notamment de la part du ministre de l'Intérieur. On a eu un texte de réforme constitutionnelle qui était souhaité par tout le monde, qui était, je vous le rappelle, réclamé par le Conseil d'État pour réparer une anomalie démocratique. Ça veut dire que depuis 1998...
Vous avez voté, les Français, d'ailleurs, le texte
je l'ai
pour
voté.
Dégeler le corps électoral.
Je l'ai voté avec beaucoup de détermination. Depuis 1998, les Français citoyens de la République qui étaient en Nouvelle-Calédonie ne pouvaient pas voter. C'est un scandale absolu. Imaginons en métropole si on disait les personnes qui se sont installées dans tel ou tel département, ville, ne peuvent pas voter. Le Conseil d'État a dit ce n'est pas possible. Il faut dégeler le corps électoral.
Mais depuis, il y a cette explosion de violence. Est-ce qu'il faut malgré tout s'obstiner à faire passer cette loi?
Potentiellement, on savait que ça pouvait porter des tensions. On n'a pas mis les forces de l'ordre qu'il fallait. Le haut-commissaire les a demandées. Le ministre de l'Intérieur a réagi après les exactions de violence. Ces violences, elles ont été terribles. 6 morts. Je pense à ces 2 gendarmes qui ont été tués, 2 jeunes militaires qui servaient la République. Je pense à leurs familles, à leurs camarades. Il y a eu un déchaînement de violence absolue, des émeutiers qui ont brûlé, qui ont pillé. Il y a un climat de terreur aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors j'attends du président de la République que d'abord il fasse passer un message de rétablissement de l'ordre républicain. Ensuite, il faut discuter.
Est-ce qu'il faut éventuellement se dire on prend plus de temps?
Non, je ne crois pas, parce que ça serait un message terrible. Ça voudrait dire que les émeutiers, ceux qui ont pillé, ceux qui ont tué, ont eu gain de cause. Il faut arrêter que la République recule. Vous savez, elle a reculé à Notre-Dame-des-Landes. C'était le début du quinquennat de M. Macron. M. Édouard Philippe était Premier ministre. Ça a été le signe de la déliquescence de l'autorité. Parce que quand on cède à la loi de la violence, à la loi de ceux qui utilisent des pratiques, des moyens, des méthodes illégales, eh bien, on cède sur tout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, reporter le calendrier, c'est pas ce que demande la majorité des néo-calédoniens. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie a voté 3 fois.
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut envisager de voter une autre fois? Marine Le Pen dit on revote dans 40 ans.
On attend quoi?
Non.
Qu'il y ait un vote. Parce que comme il y a eu un vote pour le maintien dans la République française, il était légitime. Il faut voter autant de fois qu'il y aura une majorité pour l'indépendance. Mais vous savez, on parle d'État colonial, on fait des références au passé, mais il y avait un rapport démographique dans les pays que la France a géré, qui ont été décolonisés, qui était exactement l'inverse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une majorité en Nouvelle-Calédonie qui s'est exprimée pour le maintien dans la République. Il ne faudrait pas les écouter,
donc pour vous, ça y est, ça
il ne faudrait pas les soutenir,
Éric
il ne faudrait pas les défendre.
Il y a la question de l'ingérence internationale et extérieure, non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais plus largement, et on apprend ce matin, c'est BFM TV qui a cette information, que les mains rouges sur le mémorial de la Shoah à Paris auraient été faites par 2 Bulgares qui ont d'ailleurs quitté le pays juste après les faits. Les Russes, semble-t-il, pourraient être derrière et soufflent sur les braises de l'antisémitisme.
On sait qu'il y a ces menaces, on sait qu'il y a ces ingérences. Naturellement, je les condamne avec la plus grande force. Et c'est à l'État à mettre les moyens de protection, notamment sur les cyberattaques qui sont aujourd'hui des menaces.
Cyberattaques, semble-t-il, en Nouvelle-Calédonie, avec également la Russie.
Des hôpitaux aussi qui mettent en péril la vie de patients. Ça a été le cas dans mon département, à l'hôpital de Cannes. C'est extraordinairement dangereux. Donc il faut combattre, il faut que nos services se renforcent. Nous l'avons fait dans la loi de programmation militaire, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin.
Éric Ciotti, la Cour pénale internationale, le procureur qui a présenté une requête pour un mandat d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahou, de son ministre de la Défense et de 3 dirigeants du Hamas. Est-ce que vous estimez qu'il faut respecter l'indépendance de la Cour pénale internationale et de quelques décisions que ce soit, si les juges suivent donc la proposition du procureur, ou est-ce que vous prenez vos distances?
Je crois que la Cour pénale internationale s'est définitivement décrédibilisée. Qu'elle n'existera plus, c'est ridicule. Mettre en accusation le Premier ministre d'un État démocratique qui se défend de la pire attaque terroriste qui n'ait jamais eu lieu. 1200 morts le 7 octobre, des femmes violées, des enfants décapités. Israël se défend, traque les terroristes, des terroristes lâches qui se cachent sous des tunnels et qui mettent les
mais
civils.
Mais qui sont eux-mêmes qui visés par cette demande, demande de mandat d'arrêt international, hein, les trois dirigeants du Hamas.
Mettre sur le même plan des terroristes immondes, qui ont commis cette abomination. Des islamistes, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous ont attaqué, les mêmes racines, ceux qui ont attaqué le Bataclan, ceux qui ont attaqué la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet. Et on aurait de la complaisance pour ces gens.
Est-ce que ça veut dire, Éric Ciotti, que vous dites que la France doit quitter la Cour pénale internationale?
Oui.
Oui, la France doit se retirer.
Absolument, elle s'est décrédibilisée, la Cour pénale. Est-ce qu'elle attaque l'Ayatollah Khamenei en Iran? Est-ce qu'elle attaque M. Erdogan? Est-ce qu'elle attaque M. Xi Jinping? Enfin, où est-on là? C'est ridicule.
Ça veut donc dire, Éric Ciotti, que vous estimez que la France doit sortir de la Convention de la Cour pénale internationale.
On donne du crédit à des institutions politisées qui se sont totalement décrédibilisé. Moi, cette décision m'a choqué, mais ce qui m'a encore le plus choqué, c'est la réaction française.
Le Quai d'Orsay, qui a dit qu'ils ont respecté l'indépendance.
Qui l'a soutenu, quasiment. Mais on est où? On a envoyé aussi des condoléances après la mort du président iranien, M. Raisi, qui est un boucher, qui a assassiné, qui a tué, qui est un pire dictateur. Mais quelle est la diplomatie de la France? Quelle est notre ligne? J'ai honte de ces positions, je le dis très clairement.
Éric Ciotti, le joueur de l'AS Monaco, Mohamed Camara, avait masqué ostensiblement l'écusson anti-homophobie pour la journée de lutte contre l'homophobie. Pour l'instant, il ne s'est pas excusé du tout. Vraiment, ostensiblement pas excusé. Est-ce qu'il faut le sanctionner?
En tout cas, je condamne sa démarche. Je crois qu'il faut lutter contre l'homophobie. Il y avait des instances qui l'ont décidé dans le sport et il aurait dû respecter ses décisions. Donc, personnellement, son attitude me choque, je la condamne. Et c'est aux instances sportives de voir s'il doit
être
sanctionné.
Mais est-ce qu'il peut continuer à jouer en Ligue 1, c'est-à-dire avec les valeurs françaises?
Je suis pas en charge de...
Oui, enfin, vous êtes en charge de beaucoup de choses. Je veux dire, vous avez vocation à l'être.
Il mériterait d'être condamné.
Est-ce que vous estimez que quand on refuse de lutter contre l'homophobie, est-ce qu'on peut continuer à jouer en Ligue 1?
Il ne faut pas transiger et j'appelle les instances sportives à prendre leur responsabilité.
Bruno Retailleau a dit hier qu'il ne fallait pas le sanctionner. Et il dit même qu'il faut arrêter d'introduire la cause LGBT à tout bout de champ, ça peut agacer les Français.
Je ne partage pas cette position.
Vous ne partagez pas cette position?
Non, je crois que l'homophobie doit être, lorsqu'elle s'exprime, doit être combattue.
Merci Éric Ciotti d'être venu ce matin répondre à mes questions. Vous êtes le président du parti Les Républicains. Il est 8h51 sur RMC BFM TV. Dans un instant, vous retrouvez les grandes gueules sur RMC avec Alain Marchal. Alain, qui sont les GG du jour?
Eh bien, ma chère Apolline, nous serons accompagnés aujourd'hui par Antoine Diers, le consultant auprès des entreprises, la juriste Julie Martinez et Charles Consigny, l'avocat. De quoi allons-nous parler? D'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est parti pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce n'est pas le pyromane-pompier ou le pompier-pyromane? Emmanuel Macron, venez en débattre avec nous au 32-16. On reviendra sur ce spectaculaire accident au sein de l'avion de la Singapore Airlines. Vous savez, les passagers, un passager qui est mort et d'autres qui ont été blessés. Alors, est-ce que du coup, ça renforce votre peur de l'avion ou au contraire, vous dites non, mais moi, les consignes de sécurité, je les respecte comme il faut. Je serre bien ma ceinture de sécurité dans l'avion. 32-16 pour en discuter avec les GG. On rebondira sur ce que vient de dire Éric Ciotti, aussi le député des Alpes-Maritimes, puisqu'il souhaite une privatisation de la SNCF. Est-ce qu'il a raison? Voilà, venez en discuter avec les GG au 32-16. Coup d'envoi des grandes gueules dans 8 minutes maintenant.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour les grandes gueules.